Radio Campus.
Rock, rock, techno, rap and groove.
Machination. 88.3 FM.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur les ondes de Radio Campus Orléans et vous écoutez Les Clitoriciennes. Pour l'émission d'aujourd'hui, on écoute Clémentine Labrosse, cofondatrice du média Censored, qui donne voix aux minorités de genre et qui documente l'art, la culture et les luttes contemporaines par un prisme féministe et queer. Censored, c'est une newsletter et une revue papier biannuelle. Nous sommes allés à la rencontre de Clémentine il y a quelques mois pour discuter de la création de cette revue, de féminisme et d'un numéro spécial dédié à la colère. Depuis cette rencontre, un nouveau numéro est paru. Celui-ci est consacré à l'écoféminisme. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur censoredmagazine.fr. En deuxième partie d'émission, on vous propose une programmation musicale 100% féministe en mettant à l'honneur des musiciennes et artistes de talent. On écoutera du rock avec Wet Leg, de la techno avec Kiren Dresel, du hip-hop avec Dope St. Jude et plein d'autres merveilleuses artistes. Mais avant cela, on vous laisse avec Clémentine Labrosse pour nous parler du média Censored. Bonne écoute.
Mais disons que ça a commencé en autodidacte total. On ne savait rien faire et on a appris sur le tas parce qu'on avait envie tout simplement. Et il y a plein de personnes qui se sont jointes à nous. Et ça a donné un premier numéro. Les ventes ont permis de financer le numéro d'après, etc. Et après on s'est dit, bon, puisque ça marche, organisons-nous derrière... connaissons aussi les modèles économiques, toutes ces questions-là qui en réalité sont des enjeux féministes parce qu'on ne pouvait pas dire ok, bon, on met de la pub dans un magazine. Enfin, c'était complètement contradictoire avec nos combats, nos luttes. Donc finalement, ça a donné Censored donc, qui documente l'art, la culture et les luttes contemporaines. L'idée, c'était de faire une archive aussi des féminismes contemporains et de leur donner une place et de ne pas attendre qu'on soit morte pour nous raconter ces histoires-là, quoi.
Clémentine Labrosse est cofondatrice de la revue Censored, archive politique et intime du féminisme. Elle l'a créée avec sa sœur, Apolline Labrosse, et elle m'a accueillie dans son appartement à Paris pour discuter de la jeunesse de Censored, de féminisme et du dernier numéro paru, Réponse à la violence. Je vous laisse écouter notre entretien. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter donc le dernier numéro de Censored, mais aussi le média de manière plus générale. Et dans mon souvenir, on s'était déjà vu il y a quelques mois, et tu m'avais parlé de la jeunesse de ce projet en parlant d'une conversation sur le canapé avec ta sœur, il me semble, de cette volonté de créer un objet aussi intéressant que beau et de mêler l'artistique et en même temps parler du culturel au prisme du féminisme. Est-ce que tu peux revenir sur cette genèse, comment ça s'est créé et c'était quoi cette conversation sur le canapé?
Oui, alors c'est marrant parce que le canapé revient très souvent dans les discussions, ça devient même une blague maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, on était en colocation, ma sœur et moi, donc Apolline et moi. Apolline était en école d'art et je commençais le journalisme, mais j'étais totalement autodidacte et j'avais bien conscience que intégrer le monde du journalisme était compliqué quand on n'avait pas fait d'école. Donc on a commencé à réfléchir à nos engagements respectifs. En toile de fond, il y avait MeToo. On a relu un peu nos expériences passées en tant que femmes. En même temps, on rencontrait plein d'activistes, de journalistes, d'artistes, un peu de tous les milieux, et qui faisaient beaucoup de choses de leurs propres mains. C'était des affichages sauvages dans les rues, ou alors des petits fanzines, etc. Et on s'est inspiré beaucoup de ça, plus de nos expériences de lectrices de magazines féminins à l'époque, qu'on dénonce évidemment. Mais disons que ça a donné Censored... un mélange entre une revue un peu d'art, à moitié journal intime, à moitié inspiré aussi des esthétiques du fanzine, en fait, et avec vraiment cette dimension do it yourself. finalement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, femmes, personnes non binaires, personnes trans, avaient des choses à dire et il manquait énormément d'espace d'expression pour à la fois montrer leurs arts, donc visuellement, mais aussi s'exprimer, donc écrire des choses, témoigner. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas créer cet espace-là, avec nos petites mains et sans trop savoir où ça allait nous mener, en fait. À l'origine, on pensait que c'était un peu une blague et que ça ne durerait pas. Mais c'est vrai qu'il manquait pour nous, en tout cas, une presse féministe. À l'époque, il n'y avait pas La Déferlante, il n'y avait pas Gaze, il n'y avait pas d'autres revues comme ça. J'en passe plein d'autres parce qu'il en existe d'autres, mais voilà. Donc on s'est dit qu'on en avait besoin. Au tout début, c'était plus moi qui étais en réflexion parce que, en tant que journaliste, j'avais envie de m'engager d'un point de vue féministe. Je savais que c'était ces sujets-là que je voulais traiter et couvrir. Mais donc, c'est moi qui ai commencé à potasser un peu mon petit média. Au début, ça devait être un documentaire même, thématique, sauf que je me suis rendu compte que j'étais absolument pas dans la maîtrise des caméras, du son, du montage, et que j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Donc finalement, j'ai commencé moi toute seule de mon côté à créer ce magazine qui s'appelait pas du tout Censored au début. Apolline s'est beaucoup moquée de moi parce qu'au début, je voulais l'appeler Nana. Et elle m'a dit, mais c'est trop moche. C'est vraiment trop moche, je vais faire quelque chose pour toi. Bon, voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça, parce qu'on était en coloc toutes les deux, parce qu'on se connaît par cœur aussi, et parce que je pense qu'on a, entre guillemets, déconstruit pas mal de choses ensemble. Donc ça s'est fait très naturellement. On s'est pas dit, tiens, montons un projet ensemble. Ça s'est fait un peu au fil de l'eau, naturellement, ouais. Alors franchement, c'est une grosse question. Je pense que j'ai même pas toutes les réponses à comment faire un média en féministe, parce qu'on a tellement tous et toutes appris à faire un média ou faire un projet, en fait, d'un point de vue capitaliste. Et en fait, à la base, tout est pensé par les hommes pour les hommes. Donc en fait, nous au début, en plus, il était entre guillemets un peu bénévole. Donc on arrivait juste à payer les impressions. Au début, c'était des amis, des proches ou des gens qui étaient vraiment bienveillants avec ce projet, qui acceptaient de travailler gratuitement. Sauf que la question est vite arrivée de se dire, bon bah non, en fait, on peut pas ne pas payer les personnes qui travaillent pour nous. C'est pas, on peut pas parler féminisme, et derrière exploiter ces personnes-là. Enfin, c'est complètement bête. Toutes ces questions féministes nous ont énormément fait faire des ponts avec tous les enjeux du travail de l'art, du travail de la culture. Et de toutes ces personnes qui sont en fait tout le temps complètement exploitées, nous y compris, puisque en fait, bon, même si on a des droits au chômage encore aujourd'hui, on travaille les soirs de semaine, on travaille le week-end, c'est vrai que c'est quand même... voilà. Donc on essaie de faire super attention à ça. On sait qu'en termes de management, il y a énormément de travail à faire sur comment tu vas pas oppresser en fait les personnes avec qui tu travailles, comment tu vas pas prendre des stagiaires non rémunérés, même si en l'occurrence, nous, ça nous arrive de le faire deux mois pour des personnes qui sont en école d'art, qui ont juste super envie de le faire. Mais dans ce cas, il y a un vrai échange. À partir du moment où il y a quelqu'un qui nous envoie une candidature de stage, on leur dit, écoutez, nous, si c'est pour deux mois, on ne pourra pas payer pour l'instant, parce qu'un jour, j'espère qu'on pourra le faire. Mais par contre, en contrepartie, on s'engage à ce que tu mènes à un projet qui te plaît et tu ne vas pas être là à faire des posts Insta un peu pourris. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des liens humains forts et que ce soit des vraies relations. D'ailleurs, il y a aussi ça, donc en termes de management, c'est aussi ça, c'est s'organiser en interne assez de manière horizontale finalement, où tout le monde a son mot à dire. Et il y a une troisième chose, c'est sur les appels à contribution aussi qu'on fait. Alors évidemment, on va chercher parfois des personnes où on sait qu'elles sont très pertinentes sur un sujet. Mais à côté de ça, nous, on veut vraiment pousser aussi la création émergente. Et on veut pas le faire non plus n'importe comment, on veut pas que des personnes passent des semaines à créer des images qui ne seront potentiellement pas retenues. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas aller exploiter des personnes qui nourrissent un espoir énorme à l'idée d'être publiées, et en fait, ou derrière, on leur dira non, quoi. Donc il y a vraiment tous ces enjeux-là, et après, il y en aurait plein d'autres, en fait, par rapport à... Ouais, ça me fait penser, en fait, aussi, la question de... Agir en féministe, c'est une expression que j'ai reprise d'une personne autrice, traductrice, éditrice qui s'appelle Noémie Grunenwald, dont j'admire énormément le travail, qui a créé une petite maison d'édition qui s'appelle Hystérique et Associée, qui fait partie du collectif Édité en féministe. Alors là, il ne s'agit que de maisons d'édition. Nous, comme on a un magazine, on ne peut pas en faire partie. Enfin, c'est différents, mais en tout cas, je trouve qu'elles ont énormément amené toutes ces questions-là de comment on fait en féministe, comment derrière on produit en féministe, et comment il faut surtout pas délaisser les questions d'organisation, d'administration, d'économie, qui sont tout aussi importantes finalement que les sujets que tu vas porter dans une revue. Moi, je viens quand même d'un milieu qui est un peu bourgeois à Lyon, enfin campagnard, mais quand même un peu, enfin en tout cas pas politisé, plutôt à droite, voilà. Donc le chemin a été long quand même pour en venir jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui, et je suis sûre que mon féminisme ne sera encore pas le même dans peut-être 10 ans. Mais disons que le féminisme, enfin mon féminisme en tout cas, au début était assez, assez bourgeois, du coup je pense. Hein, c'était vachement sur la question économique, de les femmes ne sont pas autant payées que les hommes, l'égalité, vouloir l'égalité absolument, moi en tant que femme, enfin voilà. Et finalement, aujourd'hui, pour moi c'est quelque chose qui, enfin mon féminisme, il concerne tous les pans de ma vie, aussi bien intime que sociétal, qu'au travail, que... Enfin voilà, tous les sujets que je vois, j'arrive à faire un lien avec le féminisme aujourd'hui. Et pas que le féminisme, évidemment. Pour moi, c'est des questions autour du genre. Donc voilà, pourquoi une société est autant binaire, qu'est-ce que ça empêche, voilà, en quoi ça me prive, moi, Clémentine, de plein de choses. Enfin voilà, j'ai déconstruit toutes les visions même d'une société qui est hétéronormative. Enfin voilà, sortir de l'hétérosexualité, ça a été vraiment... Enfin voilà, ça fait partie des gros questionnements... qui m'ont portée. Donc forcément, au début, on interviewait, les deux premiers numéros, je pense, je suis plus d'accord avec forcément tout ce qu'on a pu publier, par exemple. Mais je l'assume totalement. Hein. Après, tout est cheminement. Chez Sensord, tout est cheminement et on se questionne nous-mêmes en même temps qu'on fait. Donc, voilà, je suis quand même assez indulgente par rapport à ça. Mais je sais que, par exemple, aujourd'hui, je m'intéresse énormément aux questions du travail, mais... voilà, au travail de l'art, à quel pont tu fais avec l'art et la culture, aux questions aussi autour de l'anarchisme, voilà, aux questions beaucoup plus populaires aussi, des luttes ouvrières, toutes ces choses-là, moi, c'est des choses que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps et qui, pour moi, maintenant, sont indissociables des questions féministes. Et il y a aussi cette question, d'ailleurs, on en parle dans ce numéro Sensord, j'ai fait une interview avec Fatima Wassak qui disait, mais le problème avec le féminisme le plus présent aujourd'hui en France... sur les réseaux sociaux, le plus dans la fame, quoi, c'est justement des luttes hors sol. C'est des choses qui, en soi, c'est bien qu'il y ait des révolutions MeToo, etc., sauf que derrière, il faut aller s'ancrer sur le terrain. Et donc, je crois que c'est ça aussi mon féminisme, là, aujourd'hui, c'est une volonté d'aller m'ancrer 10 fois plus sur le terrain, d'être beaucoup plus consciente des liens qui peuvent se faire entre... le féminisme, l'écologie, les questions décoloniales, antiracistes, toutes ces choses-là, et aussi surtout en respectant qui je suis, et surtout en fait en ne parlant jamais à la place des autres, se situer, pour moi c'est vraiment la base. C'est vrai qu'à l'époque, au tout début de Sensord, peut-être que j'avais envie tellement de parler plein de choses, et que peut-être parfois j'ai du mal le faire parce que je parlais peut-être trop à la place des autres. Donc l'idée c'est d'aller inviter des personnes et de surtout... ne pas avoir honte de qui on est. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me... voilà, que j'ai en tête énormément aujourd'hui. Assumer qui je suis, assumer aussi le fait que j'ai envie de comprendre les autres, assumer le fait que j'ai des biais qui sont pas toujours OK et que tout est mouvant. Réponse à la violence. C'est Sapone qui m'a trouvé ce titre. J'ai bêtement cherché sur Google. Donc j'ai tapé réponse à la violence. Et je suis tombée sur un rapport qui date donc effectivement de 1977, qui a été porté par Alain Perfit, qui à l'époque était garde des Sceaux. Et qui... c'est tout un speech, voilà. Qui sont les criminels, pourquoi il y a autant de délinquance, des chiffres. Et c'est vrai que... bon... c'était à la fois flippant et à la fois ça nous a fait beaucoup rire parce qu'on s'est dit c'est tellement ridicule comment ces hommes, parce que c'était que des hommes, mettent autant de poids dans un rapport où, qui est totalement... c'est une coquille vide en fait ce truc. C'est totalement faux, c'est totalement détourné, les chiffres ne sont même pas corrects. Enfin, d'ailleurs, au sujet de quels chiffres sont avancés par les administrations, etc., j'invite les personnes qui écouteront ça à se renseigner sur le livre de Paul Rocher qui s'appelle « Défaire la police », je ne sais plus le titre, pardon, c'est aux éditions La Fabrique. Où Paul Rocher, donc, qui est économiste, explique qu'en fait, les statistiques, les chiffres sont que des choses qui sont malléables et qui servent l'État, en fait. Donc, quand on dit qu'il y a plus de délinquants, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et voilà, donc, nous, on a voulu détourner ce rapport administratif qui, à l'époque, donc en 1977, avait donné lieu quelques années plus tard à une loi qui s'appelait Sécurité et Liberté. Et encore une fois, on a voulu détourner ce truc de, voilà, mais à quel moment tu parles de sécurité, de liberté, alors qu'en fait, bah, t'es juste un gouvernement qui est raciste, qui est sexiste, enfin, qui a plein de trucs, voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Donc, on s'est dit, bah, nous, puisque on est tous que les n'arrivent pas à endiguer, les viols, les féminicides, toutes ces choses-là, prenons la parole, faisons un rapport, construisons un comité, donc c'est un faux comité évidemment, hein. c'est les artistes, les journalistes, voilà, et on a repris la même formulation, genre réunis en assemblée plénière, nous avons rendu ce rapport qui est sans précédent, enfin voilà, on s'est vraiment amusé à prendre ce ton-là, on a fait un objet, donc effectivement il y a des intercalaires, enfin on a vraiment repris les esthétiques administratives, parce qu'on s'est dit en fait la violence aussi c'est aussi d'un ordre qui est systémique. Et donc, évidemment qu'il y a des violences dans les foyers, ça c'est bien sûr qu'il y a beaucoup plus de violences, même je pense, dans les foyers que dans la rue, enfin il y a toutes ces questions-là, mais on s'est dit, attaquons-nous plutôt au système, mais en tout cas, le principal message qu'on a voulu porter avec Réponse à la violence, c'était comment on interagit en tant qu'être humain, en tant que femme et minorité, par rapport à l'État, qui n'honore pas ses engagements par rapport à la protection, la liberté, enfin voilà, et qui détourne totalement toute cette rhétorique-là. Donc voilà, on s'est bien amusé, et en même temps c'est quand même très sérieux à l'intérieur, hein. On interview Gwenola Ricordo sur la question de l'abolition de la prison, Assa Traoré qui parle de la mort de son frère et de toute la stratégie qu'il y a eu et qu'elle a construite avec le comité Adama. Voilà, enfin je vais pas faire toute la liste de toutes les personnes parce que c'est quand même assez dense, mais en tout cas, voilà, on a vraiment voulu apporter nos réponses à la violence à nous, et surtout proposer des choses constructives. Bah, de toute façon, c'est une question sans fin. Quelle réponse à la violence? Et d'ailleurs, bon, du coup, bah, c'est ma vision du coup, de la violence, et je ne sais pas comment répondre à ça, honnêtement. Hein. C'est une vraie question qu'on s'est posée, et il y a 1000 réponses possibles. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je trouve que c'est important de casser ce mythe des femmes ou des minorités qui seraient non violentes aussi, enfin surtout des femmes là pour le coup, voilà, qui seraient toutes sages, gentilles, qui n'ont jamais tué personne, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours, enfin voilà, toutes ces questions-là, bah c'est pas vrai. Non, il y a des meufs qui cassent des gueules, qui tuent, enfin voilà, dans ce numéro il y a par exemple Lorraine Descartes, donc, qui est journaliste spécialisée sur les questions de violence conjugale, de féminicide, qui a couvert, il me semble, des procès de femmes qui avaient tué leur mari violent. Et en fait, voilà, quelles questions ça pose aussi. Moi, la première manif à laquelle je suis allée, c'était pour Jacqueline Sauvage. Il y a un moment où, en fait, on arrive à un point de non-retour, pour citer les termes d'Assa Traoré, d'ailleurs, qui dit que la violence est un point de non-retour. En même temps, parfois, il n'y a pas d'issue, en fait. Voilà, donc... D'un côté, moi, je cautionne la violence. Honnêtement, je pense que c'est important de casser le mythe. Je pense que c'est important de comprendre qu'on peut être violente aussi. Mais par contre, effectivement, dans une perspective féministe, c'est pas une solution à long terme. On va pas aussi loin qu'on le voudrait en étant violente. Et surtout, il y a une chose aussi à dissocier. Enfin, j'en ai fait une newsletter, d'ailleurs. Enfin, il y a toujours plein de trucs, de sujets qui complètent aussi les numéros, parce que c'est vraiment sans fin. Mais moi, je trouve ça OK d'aller saboter des choses. Je trouve ça OK, je vais peut-être me tromper sur... c'était à Sainte-Soline où il y a eu des agriculteurs et des militants, militantes qui sont allés saboter tout ce projet des grandes bassines pour irriguer les cultures de maïs, d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je trouve ça OK d'aller saboter ça, en fait. Quand on comprend derrière tous les enjeux autour de l'écologie, du capitalisme, en fait, de l'appropriation des terres, des biens communs. Et d'un autre côté, je pense que la violence en tant que telle, tuer des gens, frapper des gens, ça c'est pas OK. Enfin voilà, bien sûr que non, je cautionne pas la violence.
Ça dépend c'est quoi le curseur qu'on met derrière le mot violence. Enfin, par exemple, il y a des personnes qui considèrent que ce que font les femmes c'est violent et d'autres pas du tout.
Alors d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, c'est que la première idée justement, en faisant ce numéro Sensor, la première idée qui m'était venue c'était ça. C'était comment tu perçois la violence en fait. À quel moment dans les médias mainstream on montre les féministes comme des personnes violentes, alors qu'elles ne font que demander des droits, de la justice, de l'égalité, en fait, des choses basiques que les personnes les plus privilégiées, dont les personnes les plus privilégiées bénéficient. Enfin, c'est quand même complètement lunaire de dire que t'es violente. Moi, une des premières choses que j'ai, enfin, les commentaires que j'avais quand je commençais à m'engager sur les questions féministes, ça devait être en soirée ou quoi, j'entendais, je sais pas, un mec qui vient me voir qui me dit « Ah, t'es féministe ? Ah, mais ça va, t'es pas une féministe contre la haine, qui est dans la haine des hommes ?» J'avais envie de le regarder, me dire « Mais tu veux quoi ?» Donc, il y a un peu ce truc, mais comment on peut penser que des féministes sont violentes alors que tu les tues, que tu les frappes, que tu... Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un gros problème de toxicité aussi dans les discours et dans les rhétoriques, effectivement, autour de la violence. Donc, l'idée de ce numéro, c'était, effectivement, de retourner nos perceptions de la violence. C'est pas nous qui sommes violentes en allant mettre des affiches dans la rue, en faisant un magazine où on dénonce ces violences. Non, c'est l'inverse, c'est le patriarcat qui est violent, qui tue, qui... Voilà. Donc, il y a un moment, remettons les pendules à l'heure. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on prenait de plus en plus de liberté éditoriale. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est même plus des magazines où on s'amuse à dire que c'est un objet éditorial non identifié. C'est-à-dire que, bon, bah, y a encore des interviews, des textes, mais il n'y a jamais de rubrique récurrente, etc. Et on est de plus en plus libre sur les formats intérieurs. Effectivement, dans chaque numéro, au-delà des mots, au-delà des textes libres et des interviews qui sont quand même toujours très engagés, voilà, on est quand même dans une virulence là, dans ce numéro, enfin, qui, voilà, c'est des personnes très radicales. Et parallèlement à ça, donc, qui sont d'ailleurs tout aussi radicales, mais sur des médiums différents, on va dire, donc on propose à 5 artistes de faire une carte blanche. Donc on donne des cartes blanches à 5 artistes, souvent émergents, émergentes, même si on n'aime pas trop ce terme. Enfin voilà, l'idée c'est voilà, des personnes qui ne sont pas médiatisées spécialement, qui sortent d'école. Ou... C'est de l'illustration, c'est de la peinture, c'est du collage. Enfin vraiment, il y a plein de manières différentes de faire ces cartes blanches-là. Peut-être que celle qui m'a parlé le plus, c'est celle de Camille Pogu, qui en fait s'est réapproprié la question du revenge porn, donc en fait qui a collecté des photos. Donc certaines femmes ont été victimes de revenge porn, donc en fait ont vu leurs photos de nus diffusées sur des réseaux, etc. Et en fait elle a proposé à ces personnes de prendre ces photos et de les remanier totalement. Alors elle a rajouté des éléments plastiques dedans, donc ça fait vraiment des collages, ça fait des œuvres en fait. On voit pas du tout hein, le nu, on voit pas, mais on devine quand même parfois certaines choses. Et un peu pour dire, bah, on va se réapproprier ça, on va en faire une œuvre d'art en fait. Et voilà, et donc je l'explique peut-être pas très bien parce que vraiment, enfin j'invite du coup les personnes à aller plutôt se renseigner sur le travail de Camille Pogu. Mais j'ai trouvé que cette démarche était vraiment fantastique et assez salvatrice, enfin voilà. Le numéro donc, s'appelle « Réponse à la violence ». Il est disponible en librairie. Donc, les points de vente sont répertoriés sur notre site internet. Il y en a à peu près une petite centaine. Sinon, il peut être commandé directement sur notre site internet. Et j'invite les personnes qui seraient intéressées par Sensord sur le long terme à s'abonner. On a fait un abonnement en continu. Donc, c'est un prélèvement automatique en fait, qu'on peut résilier quand on veut, qui nous sécurise énormément parce que ça nous évite de faire... tous ces instants de promotion qui sont très lourds aussi. Et voilà, si tu aimes Sensord, en gros, tu peux le prendre tout le temps et tu le reçois dans ta boîte aux lettres en avant-première et avec les frais de port offerts en plus. Donc ça nous aide beaucoup, nous aussi, par ailleurs.
this island. This was an escape plan. This was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchard? Who fixes up the gables? Emotional torture from the heavy high table. Who fetches the water? Stabbing with your fork. I know you're a smart man. I know you're a smart man. And weaponized the false incompetence. It's dominance under a guy. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her. She'd meet the same cruel. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor.
How bad do you want it? How bad do you want it? This bad out bad. This bad out bad. This bad out bad. This bad out bad. I believe in you and me. We about to get this money. I believe in you and me. We about to get this money. Manifest the bag, the swag. But you wait to humble to brag. Manifest the bag, the swag. But you wait to humble to brag.
What the fuck you gonna do, bitch?
Yeah.
How bad do you want it? This bad out bad. This bad out bad. This bad out bad. This bad out bad. Yay, manifest, manifest that shit, mana, mana, manifest that shit. Manifest, manifest that shit, mana, mana, manifest that shit. Manifest, manifest that shit, mana, mana, manifest that shit. Manifest, manifest that shit, mana, mana, manifest that shit. We'll be right back.
see me party. Pet the kitty, call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect a bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend a bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Ride on and kiss on the ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Ride on and kiss on the ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting your blood in the sink. I'm crazy, but you like that.
Then a Thank you.